sera tout à fait comme à la radio.
Une émission musicale et féministe qui rugit tous les premiers mardis du mois à 19h10 sur RDWA. Du son, du son, du son.
Des témoignages.
Du son.
Des lectures.
Du son.
Qui en dit long.
Bonsoir.
Salut, ici Micro Féroce. Pour cette émission de février, on va vous parler des arbres. Ceux qui peuvent nous évoquer des images bucoliques, une balade en forêt, un arbre qui nous fait de l'ombre pour une sieste ou un pique-nique, ou des branches qui débordent de fruits. Mais les arbres sont aussi des symboles de lutte, porteurs d'enjeux politiques et de territoire, et ils sont à protéger contre des intérêts économiques qui ne bénéficient qu'à quelques-uns. Bonne balade au milieu d'une hêtraie, de musique éclectique. On fera un détour par un verger pour cueillir des chroniques BD et livres. On grimpera aux arbres, on écoutera dans le bruissement des feuilles des interviews. Et une devinette pour commencer l'émission. Quel est l'arbre préféré des passionnés d'origami?
Le peuplier.
Bonne écoute.
Et on a commencé cette émission avec le son Arboles de l'artiste, compositrice et productrice chilienne Rubio. Un son électro que vous pouvez trouver sur son album PES, sorti en 2018. C'est un morceau poétique et métaphorique dans lequel elle exprime le lien amoureux, l'autonomie, l'interdépendance et la rupture. Tout un programme.
Et maintenant, on va écouter Renata Flores, un featuring avec Los Mirlos. La chanson s'appelle A Cacao. Alors, c'est une chanteuse péruvienne qui rappe en quechua. Elle définit son style de musique comme une fusion entre musique traditionnelle et hip-hop. Le quechua, c'est la langue de ses ancêtres, une langue de résistance car les Espagnols, lors de la colonisation, ont imposé leur culture et leur langue et ont stigmatisé les autochtones qui parlaient le quechua. Renata dit « Chanter en quechua, c'est comme rompre mes chaînes, rompre une chaîne qu'on traîne depuis tant d'années ». A Cacao est la fusion de plusieurs genres, reggaeton, rap et cumbia. Cela signifie « ça brûle » en espagnol. Dans cette chanson, elle défend les seules personnes qui luttent et protègent la nature et la jungle, c'est-à-dire les autochtones. C'est une chanson en collaboration avec Los Mirlos, un groupe légendaire de la culture musicale de l'Amazonie du Pérou, connu pour ses huapeos, sont des cris d'oiseaux et des sons d'ambiance de la jungle. Alors, dans la première partie de la chanson, Renata dit « on est tous en train de brûler, en train de danser et s'amuser ». Et dans la deuxième partie, qui est un peu plus rappée, elle dit que le monde est en train de brûler, qu'ils sont en train de nous endormir et qu'on ne s'en rend pas compte. Que la jungle qui est le poumon et l'oxygène du monde est en train de disparaître, il faut qu'on se réveille, c'est un cri de protestation. Et alors elle décrit son... Je vais vous lire comment elle décrit son clip vidéo. Elle dit « Cette année, j'ai eu l'occasion de découvrir la jungle centrale du Pérou. J'ai navigué plus de 10 heures sur le fleuve Tigré. J'ai voyagé avec beaucoup d'émotions car j'allais rencontrer le dernier locuteur du Toshiro et la famille Ochoa de la communauté Muruibue. Ce fut une expérience inoubliable car j'ai pu voir la réalité qui y règne et les luttes qui sont largement ignorées. J'ai découvert Intunto, le village quechua qui a accueilli Amadeo, dont l'histoire a même été relatée dans le New York Times. J'ai également découvert le Central Arena où se trouve la communauté Muruibue qui lutte encore pour la reconnaissance de sa langue et de sa culture. Vous pouvez imaginer tout ce que j'ai pu ressentir, apprendre et écrire. Je leur dédie cette chanson, leur joie et leur espoir qui sont très contagieux et me donnent beaucoup de courage et de force pour aller de l'avant. Dans cette vidéo, vous pourrez les découvrir et vous les aimerez et les respecterez sûrement autant que moi. Je remercie le groupe légendaire Los Mirlos d'avoir participé à ce projet. Je vous adresse toute mon affection et mon respect.
Esta que quema, esta que quema,
ni wampa sama chaspa.
Sígala, sígala, sígala.
Hasta que quema. Con su encanto nos condena. La vibra te contagia y te aceleras. Katatatachkan está temblando, nadie lo espera. Hipnotizando con mi sutileza.
Siente, siente el sabor de la selva. Baila, baila, baila.
Está que quema. Está que quema. Está que quema. A cacao, a cacao.
Thank you. J'oublie souvent, je ne souris jamais.
C'était Nuit forêt de Laura Caen, une chanson que j'aime bien écouter. Laura Caen, elle a commencé très jeune à faire de la musique. Quand elle était ado, elle s'est lancée en duo et puis pas longtemps après, elle est partie seule. Je crois qu'elle a commencé dans les années 2010 à peu près. Nuit forêt, ça vient de son deuxième album qui s'appelle Une fille et dans lequel, je la cite, « Il est beaucoup question de nature, de romantisme. J'associe toujours les émotions aux éléments à la nature. Je les rapporte à quelque chose de plus romantique. C'est comme ça que je ressens les choses. J'ai du mal à mettre des mots sur les émotions. Je trouve qu'il y a plein d'images dans la nature qui se rapprochent de ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps. L'orage, la tempête, une mer d'huile, ça fait écho et ça m'inspire. » Et dans son travail, elle s'entoure le plus possible de femmes qu'elle veut valoriser à des postes où elle trouve que c'est pas encore assez commun, par exemple sur scène, à la technique ou dans ses clips.
Moi, je vais présenter Euphorest, une chanson cultissime du groupe Cure de 1980. Et la chanson raconte comme un songe inquiétant dans une forêt. Et l'interprétation qu'on va entendre là, c'est celle de Rebecca Warrior et de Fishback, qui intensifie l'ambiance mystérieuse et hypnotique du morceau. Cette reprise, elle est née d'une performance sur scène entre Fishback, qui est auteur, compositrice, interprète, entre rock et synth-pop, et Rebecca Warrior, multitalent, qu'on ne présente plus. Cette reprise, elle est vraiment trop trop bien. Je vous la mets. C'est parti.
Close your eyes and see. See inside the dark. Alors ce soir, on lève un peu les yeux. On parle d'arbres, de hauteur et de cordes. Grimper, ce n'est peut-être pas que fuir le monde, c'est peut-être aussi le regarder autrement. En fait, j'ai enregistré une discussion avec une amie, grimpeuse d'arbres professionnelle, pour qui être là-haut, c'est à la fois un métier, une lutte et une sensation de liberté très concrète. Alors, on écoute. Salut Faune, est-ce que tu peux te présenter rapidement, genre qui tu es, ton métier et ton lien aux arbres?
Je suis éducatrice en grimpe d'arbres. Voilà, donc c'est un diplôme, c'est un CQP. CQP éducateur en grimpe d'arbres, donc ça fait à peu près 3-4 ans que je fais ça. Après j'ai d'autres métiers en parallèle aussi, toujours orienté dans ce qui va être la protection de la nature, l'environnement, notamment je suis accompagnatrice en montagne.
La grimpe d'arbres, c'est souvent un métier qui est perçu comme un métier d'homme. Comment toi, tu vis ton corps de meuf dans ce milieu ?
Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que effectivement la grimpe d'arbres... De manière large, quand on met dans le mot, enfin dans les deux mots grimpe d'arbre, on imagine soit souvent on va imaginer tout ce qui va être parc à cobranches, ou alors tout ce qui va être axé autour de l'élagage, donc monter dans un arbre avec une tronçonneuse, couper des branches, être en équilibre sur des trucs très physiques, ou voilà faire de la maintenance dans des parcs à cobranches. Et donc effectivement, on va surtout voir majoritairement des hommes. Ça ne veut pas dire que les femmes n'existent pas, mais elles sont moins présentes. L'accès pour ces femmes-là est plus difficile, entre guillemets, parce que on les sélectionne moins facilement. Moi, en tant que femme, à ce moment-là, quand je suis arrivée, je ne me suis pas forcément sentie à ma place, dans le sens où les femmes qui étaient présentes, pour beaucoup, c'est des femmes qui venaient plutôt du milieu du spectacle, donc qui étaient danseuses ou autres, et qui voulaient un peu découvrir la corde et la danse verticale. Donc, elles ont souhaité passer ce diplôme-là. Donc, souvent, c'était des nanas qui grimpaient avec beaucoup de grâce, beaucoup d'esthétique. Et moi, en tant que femme, on m'a assimilée au même fonctionnement. Sauf que moi, j'ai plutôt une grimpe sportive, dans le sens où je suis pas une danseuse, quoi. Donc, quand je grimpe, j'utilise mes gros bras et j'étais un peu bourrine. Et en fait, à ce moment-là, comment on m'a perçue en tant que femme, c'est on m'a reproché mon manque d'esthétique et mon manque de grâce. Et c'est quelque chose qui est revenu assez souvent par la suite dans la formation. Les formateurs, c'était que des mecs. Il n'y avait pas beaucoup de femmes. Il y a une femme qui est venue, qui était intervenante une fois de temps en temps. Mais sinon, c'était principalement des hommes. Et c'était eux qui nous évaluaient en permanence quand on était dans l'arbre, sur notre qualité de grimpe, sur notre technique, sur les nœuds, la sécurité, ci et ça, mais aussi sur notre sensualité dans la manière de grimper. Et donc moi, on m'a souvent dit, c'est dommage, tu te débrouilles bien, mais tu manques sérieusement de grâce. Et pour répondre à ça, souvent je disais, en fait, moi, je ne suis pas une danseuse, je suis plutôt issue de la boxe, quoi. Donc, en fait, et puis je ne cherche pas à faire beau, je cherche à faire bien, en fait. Très souvent, en fait, on est... ou sexualisée, considérée comme pas assez féminine, quoi. Il y a un espèce de truc comme ça, cette ambivalence. Donc il y a la place de la femme, elle n'existe pas totalement, elle n'est pas très libre, j'ai l'impression, dans ce milieu-là.
Occuper un arbre avec son corps, ça peut être une forme de résistance, j'ouvre les guillemets, non violente, mais radicale. Qu'est-ce que ça raconte, selon toi, de nos manières de lutter ?
Pour moi, d'aller dans un arbre et de s'installer dedans pour s'opposer à un projet, c'est intéressant dans le sens où on va déposer notre corps. Notre corps est un moyen de faire pression face à une multinationale de manière... pacifique, mais j'ai l'impression que c'est assez limite dans le sens où à notre époque, aujourd'hui, le pacifisme, il est impraticable, inutilisable, dans le sens où en fait on est dans une société violente et que même si en se mettant dans cet arbre et en proclamant haut et fort que c'est impossible, qu'on veut pas que les forêts soient abattues ou qu'il y a un projet dégueulasse qui s'installe à cet endroit-là, en fait la multinationale est tellement puissante, tellement forte, qu'en fait, ça ne suffit plus. Sur les dernières occupations qu'on a eues par rapport à la bretelle d'autoroute dans le sud de la France qui était en train de se construire, et en fait, les personnes, ça n'a pas suffi. Ce qui suffisait il y a des années, ça n'a pas suffi de faire du street sitting. Elles ont même été obligées de faire la grève de la faim. Et donc, finalement, c'est limitant maintenant, aujourd'hui. Pour moi, je pense qu'on est obligé d'agir de manière violente face à une société qui est violente. C'est la seule solution.
Les arbres se penchent plus fort.
te donne de la force ou de la joie dans ce métier ?
En général, il y a un moment que j'aime particulièrement, c'est quand les personnes découvrent l'arbre. Je prends grand soin, quand j'installe mes cordes, à mettre tout un scénario esthétique qui est en mimétisme un peu avec la zone forestière où se situe l'arbre, ou même la forme de l'arbre, la manière dont je vais lover mes cordes, les attacher. Parce que je sais que quand les gens découvrent l'arbre, ils sont toujours émerveillés. Il y a vraiment un regard très enfantin dans leurs yeux, donc soit les enfants, pour qui c'est normal, mais même chez les adultes, ça réveille quelque chose du domaine de l'enfance, du souvenir d'heures passées sous un arbre, ou dans un arbre, à faire des cabanes ou autre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez magique. Après, moi, à titre personnel, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est quand j'installe mes cordes et que je suis toute seule dans l'arbre. Donc, parfois, ça va être dans un parc, comme parfois, ça peut être en pleine forêt ou dans des endroits plus sauvages. Mais à chaque fois, je dois prendre le temps de monter dans l'arbre. Donc, je dois l'observer sous tous ses angles, regarder la forme qu'il a, s'il a vécu la foudre ou il a perdu des branches. Donc, en fait, il y a une espèce d'intimité partagée qui est assez forte. Je suis dans le silence, je suis dans le calme. Donc, il n'y a pas de bruit. Souvent, bah, c'est soit en automne ou au printemps. Donc, c'est aussi des périodes où les saisons, elles sont puissantes. Donc, moi, je suis toute seule dans ma bulle. Et après, je commence à grimper dans l'arbre. Et au fur et à mesure, je le découvre. Et j'aime beaucoup aussi prendre le temps de le dessiner. Et aussi, c'est quand je suis en lien avec un autre être humain pour pouvoir aller grimper dedans, bah c'est aussi un partage d'histoire familiale et de vie. Et ça, je trouve ça hyper chouette. Donc, je dirais que l'arbre, c'est quand même un lien, un passeur de quelque chose.
Quand tu occupes ou que tu es dans un arbre, suspendu comme ça hors du sol, est-ce que tu ressens une forme de liberté particulière ?
Pour le coup, ben, quand je suis dans les arbres, il y a une magie un peu qui s'opère en moi, dans le sens où je suis en hauteur et j'ai pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que le moindre faux pas peut m'amener à chuter et à mourir. Donc en fait, j'ai besoin d'être toujours focus et concentré sur la moindre manipulation que je fais. Et c'est drôle parce que le fait d'être pieds et mains liés à l'arbre fait que moi, intérieurement, ça me permet de ressentir une sorte de grande liberté. Et en fait, ça me crée de l'endorphine dans le cerveau, tout simplement. Il y a un truc qui fait que, en fait, à ce moment-là, je me sens vivante. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je peux vivre que quand je suis toute seule. Des fois, je peux embarquer mon hamac et passer 2 jours dans les arbres, dormir dans l'arbre. Enfin, voilà. Là, à ce moment-là, pour le coup, je me sens vraiment entièrement vivante, centrée sur un seul et même truc, quoi. C'est presque méditatif, en fait. Et voilà.
Et s'il y a un ou une enfant qui t'écoute ce soir et qui se dit « Waouh, j'aimerais trop faire ça », qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ?
Donc, de tenter avec ce qu'on a, avec les moyens qu'on a, mais de tenter de faire. Voilà. Donc, ben, y a plein de possibilités. Aller grimper dans des petits arbres, prendre le temps de monter pas très haut, ou alors faire des métiers qui sont orientés sur la forêt, la gestion forestière, aller faire des prélèvements d'insectes au fin fond de la canopée. Voilà, tout est possible, du côté aventurier au plus simple et proche de nous, quoi. Voilà.
Merci Faune, c'était trop cool de t'entendre. Merci d'avoir participé à cette interview pour l'émission spéciale Les Arbres de Micro Féroce. Bisous, bisous.
Dans la pleine onde, que jamais rien ne m'atteint.
Been out sailing in a decade full of dreams, and he takes her to a schooner, and he treats her like a queen. Mary Beats from California with her amber stones and green. He has called her from the harbor, he has kissed her with his freedom, he has heard her off to starboard. In the breaking and the breathing of the water weeds, while she was busy being free. There's a man who's climbed a mountain and he's calling out her name, and he hopes her heart can hear. 3,000 miles he calls again, he
there beside him, he can miss her just the same. He has missed her in the forest, while he showed her all the flowers, and the branches sang the chorus as he climbed the scaly towers of a forest tree. While she was somewhere being free, there's a man who sent a letter and he's waiting for reply. He has asked her of her travels since the day they said goodbye. He writes, "Wish you were beside me, we can make it if we try." He has seen her at the office with her name on all his papers. Through the sharing of the prophets, he will find it hard to shake her from his memory. And she's so busy being free. There's a lady in the city, and she thinks she loves them all. There's the one who's thinking of her, there's the one who sometimes calls, there's the one who writes her letters with his facts and figures scrawled. She has brought them to her senses, they have laughed inside her laughter. Now she rallies her defenses, for she fears that one will ask her for eternity. For eternity. And she's so busy being free. There's a man who sends her medals, he's bleeding from the war. There's a jouster and a jester and a man who owns a store. There's a drummer and a dreamer, and you know there may be more. She will love them when she sees them, they will lose her if they follow, and she only means to please them, and her heart is full and hollow like a cactus tree. While she's so busy being free, like a cactus tree.
C'était Cactus Tree de Joni Mitchell, un son issu de son premier album, Song to a Seagull, sorti en 1968. Joni Mitchell, elle a marqué très tôt la scène folk et elle a inspiré de nombreux artistes après elle. Elle a appris en autodidacte la guitare et avait apparemment sa propre manière d'accorder son instrument. Moi, j'ai pas l'oreille musicale, alors je pourrais pas dire, mais... elle compose et elle écrit, interprète ses chansons. Dans Cactus Tree, elle parle d'une femme qui a des relations avec des hommes qui semblent l'aimer, mais elle oscille entre l'amour et l'envie de fuir ces hommes, car elle est trop occupée à être libre et ne veut pas se retrouver dépendante ou enfermée dans une relation. Elle parle de son cœur plein et creux comme un cactus, faisant le choix d'être elle-même malgré les autres qui pourraient chercher à l'en empêcher.
Et maintenant, on va écouter Claire Yadou. Le titre, c'est « Plantons les arbres ». Alors, Claire Yadou, c'est une figure de la scène musicale togolaise. Elle perpétue les traditions des peuples de Loti. Loti, c'est le nom d'un fleuve qui est au nord du Togo. Et on appelle cette région les plaines de Loti. Alors, cette région connaît ces 50 dernières années de grands changements climatiques, des pluies irrégulières, des ensoleillements intenses, des inondations fréquentes, des baisses de rendement agricole, des assèchements, des mares et des rivières, et a donc une forte pauvreté et un exode rural. Claire Yadou a façonné sa voix en chantant dès l'enfance pour communiquer avec d'autres bergers dans les plaines de Loti. Ses œuvres intègrent des récits, proverbes et réflexions sociétales. Engagée pour la paix, elle apporte régulièrement son soutien aux familles touchées par les crises au nord du Togo. À travers son titre « Plantons les arbres », Claire Yadou appelle à préserver les arbres et la nature. Voilà, alors vu qu'on parle du Togo, donc j'avais envie de vous parler de la lutte du peuple togolais. Alors récemment, une fois de plus, le peuple, notamment la Gen Z, s'est levé pour dire non à 58 ans de dictature. Le 6 juin 2025, à Lomé, des milliers de jeunes Togolais sont descendus dans les rues pour exiger la démission de Faure Gnassingbé. Face à la répression sanglante qui s'en est suivie, le mouvement du 6 juin, qu'ils appellent M66, s'est créé. Né de la douleur de la rage, forgé dans la résistance. Le M66 porte en lui l'espoir de libération totale du Togo, de l'emprise criminelle de la dynastie Gnassingbé. Le M66 dénonce la hausse du coût de la vie et la récente réforme constitutionnelle qui valide la gérance du pays sans limitation de mandat. Alors dans ce conflit, évidemment, l'État français a sa part de responsabilité. D'abord, il a formé les militaires qui ont assassiné dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963 le président Sylvanus Olympio. Et lui, c'était un président qui voulait se barrer de la tutelle coloniale française. Et après une année de présidence, donc un certain Étienne Eyadema Gnassingbé, ancien sergent-chef démobilisé de l'armée française, avec un autre groupe de soldats, donc ont attaqué la résidence présidentielle et ils ont tué Olympio à bout portant. L'implication des services français dans ce coup d'État est dénoncée par beaucoup de Togolais. Ils dénoncent un soutien logistique et politique. Encore aujourd'hui, l'armée française, bien qu'elle se soit fait virer de pas mal de pays du continent africain, tente de dealer ou d'imposer encore sa présence dans plusieurs pays avec la création du commandement pour l'Afrique en 2024. Donc dans ce contexte, il n'est pas surprenant que la France soit perçue par une large partie de l'opinion togolaise comme co-responsable de la situation dramatique des Togolais. Face à cette répression, aujourd'hui, les opposants ont cessé leur mobilisation. Depuis l'automne 2025, le régime a renforcé son contrôle sur les réseaux sociaux et les médias indépendants. Les accès sont restreints, la surveillance est accrue, les poursuites judiciaires contre les utilisateurs, coupures ponctuelles d'Internet. Entre juillet et septembre 2025, plus de 133 manifestants pacifiques du mouvement de la Gen Z Togo et des activistes ou militants de la société civile ont été interpellés arbitrairement. Le 6 juin 2025, c'est 17 morts, 156 blessés graves, 312 arrestations, 23 disparus. Alors force à LE et force à la lutte décoloniale. Et maintenant, on écoute la chanson de Claire Yadou.
Sim,
êtes toujours à l'écoute de Micro Féroce sur RDWA, peut-être en direct sur le 101.7 ou 107.5 ou alors même sur le www.rdwa.fr. Et maintenant, c'est la chronique BD. Enfin, livre jeunesse, je crois.
Ouais, voilà, c'est remplacé ce soir par une chronique livre jeunesse. Je vais vous dire comment ce livre est arrivé jusqu'au micro. Alors, avant la radio, il y a eu le canapé et ma mini-coloc de 5 ans. Une enfant plutôt du style anxieuse, qui capte tout, beaucoup, surtout ce qui grince. Alors je lui lis le livre, je guette ses épaules, sa petite tête, son souffle. Fin de lecture. Elle me regarde et elle lâche très sérieuse. « Oui, celui-là, tu peux le présenter à la radio. » Validation suprême, test enfant passé. Le livre donc s'appelle « Dans la forêt du paresseux ». C'est signé Anouk Bois-Robert et Louis Rigaud et c'est paru en 2011 aux éditions Helium Actes Sud. C'est un livre pop-up. Alors, le pop-up, c'est des pages qui se déplient, des formes en papier qui se dressent quand on ouvre le livre. Le décor sort de la page, on peut manipuler, on explore. Et le propos ici, il est très clair, c'est la déforestation, mais raconté à hauteur d'enfant. En seulement 7 pages, on traverse une forêt luxuriante, dense, pleine de vie, planquée dans les feuillages. Puis, page après page, ça se vide, ça s'éclaircit, ça s'abîme, la forêt meurt. Vraiment. Et puis, parce que c'est ça qui compte, eh ben, elle renaît. D'abord en bébé forêt, fragile, timide, et à la fin, elle redevient belle et habitée grâce au geste de reforestation d'un humain. Un humain qui répare au lieu de prendre. Et ouais, ça change. Ce que moi j'ai trouvé hyper malin, et ma mini-coloc aussi, c'est le jeu de la recherche du paresseux. Donc à chaque page, on le cherche, il est planqué dans les arbres. Ça adoucit un peu la lecture et ça crée une quête, une petite respiration. On n'est pas juste face au désastre, on est aussi un peu en mouvement. Voilà, on cherche, on observe et on prend le temps. Exactement l'inverse de ce qui a détruit la forêt, finalement. Et graphiquement, alors c'est du joli style découpage. Moi, j'ai quand même lu pas mal de pop-up magnifiques, mais souvent, c'est très frontaux, très décor. Là, on a plutôt un vrai livre en 3D. Il faut tourner autour, pencher la tête, regarder derrière, sur les côtés. Du coup, le graphisme, il se découvre dans tous les sens. C'est un monde vivant, c'est pas comme une vitrine, et du coup, ça, c'est très intéressant. Ce livre, il fait un truc assez intelligent. Il montre le carnage sans écraser. Il propose de l'espoir sans naïveté. Et il dit aux enfants, et aussi aux adultes qui lisent avec, que le beau peut survivre au lourd, que réparer, c'est possible, et que rien n'est foutu tant qu'on agit. Bref, c'est un livre qui fait confiance à l'intelligence des enfants, qui ne leur ment pas et qui leur tend une forêt blessée et la possibilité d'en prendre soin. Donc franchement, si une enfant anxieuse de 5 ans sort plus solide que terrorisée, moi je dis mission accomplie. Southern trees, barren, strange fruit, blood on the leaves. Blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Oh, strange fruit hanging from the poplar tree. Pastoral sea of the gallant south, them big bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolias clean and fresh, then the sudden smell. The crow.
Et l'on vient d'écouter Strange Fruit, interprété ici par Jeanne Nova, artiste états-unienne qui s'est faite connaître pour ses multiples reprises. Elle disait de ce son lors de sa sortie il y a 8 ans, quel malheur que Strange Fruit soit encore d'actualité. En tant qu'artiste, j'ai voulu partager ma version de cette chanson envoûtante, non seulement pour rendre hommage aux légendaires Billie Holiday et Nina Simone, mais aussi pour rendre hommage à la vie des Noirs. Nous comptons lumière et amour. Et oui, ce morceau a bientôt 90 années. Il a été écrit dans les années 30 et a initialement été interprété par Billie Holiday en exactement 1939. À cette époque, ce fut un cataclysme musical, politique et social. Je cite « La chanson choque non seulement les spectateurs, mais aussi les autorités états-uniennes. » Très rapidement, les pressions s'intensifient pour empêcher Billie Holiday de chanter ce morceau, de dénoncer l'horreur incarnée par l'image de ces étranges fruits qui pendent aux branches des arbres dans le sud des US. Certains clubs refusent même de la programmer, tandis que le FBI la surveille de près. Malgré cela, Billie Holiday refuse de céder, convaincue que cette chanson est bien plus qu'un simple morceau de musique. Elle est un cri d'alarme, un acte de résistance contre une société qui préfère fermer les yeux sur les injustices raciales. En effet, la chanson Strange Fruit est l'un des morceaux les plus emblématiques de la lutte contre le racisme aux États-Unis. L'histoire de cette chanson est marquée par la dénonciation violente mais aussi poétique du lynchage des Afro-États-Unis dans le sud des États-Unis de 1877 à 1950, un sujet encore tabou en 1930. Elle est aujourd'hui considérée comme un hymne des droits civiques et un symbole de résistance face aux injustices raciales.
Et la chanson suivante, c'est une chanson qui nous a été conseillée d'écouter au casque. Donc si vous avez un casque à proximité, n'hésitez pas à tendre la main et à le brancher sur votre poste. Je vais lire le texte de présentation que nous a envoyé la personne qui a fait ce son. Ce son s'appelle « Tous ces grands arbres ». C'est une pièce d'électroacoustique, une composition à partir seulement de la voix d'une même personne qui parle de son rapport à la forêt, au paysage qui l'entoure et aux coupes rases. Le seul autre enregistrement est une coupe d'arbres, enregistrée au binaural. Ça a l'air d'être une technique d'enregistrement qui tente de retransmettre le son comme en vrai. L'idée, c'était de prendre le discours de cette personne, avec lequel je ne suis pas d'accord, et de le transformer en forêt, chercher dans les fréquences de cette voix qui m'est étrangère, des sons, des choses qui me touchent, des bruissements de feuilles, des piaillements d'oiseaux, le souffle d'un sanglier. Forcément, je ne cherchais pas à être proche de la réalité, mais c'est plutôt une forêt onirique, fantasmée, une forêt habitée. Donc si vous avez un casque, à vos casques, et bonne écoute. Je suis pas
Alors, c'était Dalal Abou Amné. C'est une chanteuse et productrice palestinienne, docteur en recherche en sciences du cerveau et en neurophysiologie. Elle a commencé à chanter à l'âge de 4 ans, alliant l'authenticité et modernité. À 16 ans, elle était déjà connue pour son interprétation de chansons de l'héritage palestinien. Par ses productions, elle œuvre à consolider l'identité palestinienne et soutient la cause de son peuple. Dans ce morceau, Dalal Abou Amné chante en compagnie de la famille Yasséti, une des plus belles chansons sur l'olive au cœur de ce qui est considéré comme le plus vieil et le plus grand olivier du monde, situé dans le village de Al-Walaja, dans le district de Jérusalem. Alors, j'ai pu lire que cet arbre a plus de 5000 ans. Il mesure 25 mètres de diamètre, couvre une superficie de plus de 250 mètres carrés et mesure environ 13 mètres de haut. Ses racines s'enfoncent à plus de 25 mètres dans le sol. L'arbre mère a donné naissance à environ 22 arbres filles et produit environ 500 kilos de fruits par an. Incroyable. Et j'ai pu lire aussi que la saison de la récolte des olives en Palestine est considérée comme une fête à laquelle participent tous les membres de la famille, car les olives en Palestine ne sont pas seulement une propriété agricole, elles sont la dignité du peuple. Elles sont leur bulletin d'information orale, le sujet de leurs conversations lors des soirées, leur banque centrale qui calcule les profits et les pertes, la star de leur table et le compagnon de leur repas. C'est leur carte d'identité qui n'a pas besoin de tampons ni de photos et qui ne perd pas sa validité à la mort de son propriétaire. Elle continue à le représenter, à porter son nom et à le bénir à chaque nouveau petit enfant et chaque nouvelle saison. Il faut savoir que chaque année, des dizaines de milliers d'oliviers sont arrachés ou calcinés par les colons. En 2025, j'ai pu lire qu'il y avait environ 20 000 oliviers qui avaient été détruits. Et depuis cet automne, les colons israéliens, protégés par l'armée, ont volontairement torpillé les récoltes d'olives dans les villages palestiniens. Cette activité qui fait vivre plus de 100 000 personnes et représente, comme on l'a entendu, depuis toujours un moment familial festif dans la société palestinienne. Et la colonisation, du coup, a eu des répercussions catastrophiques pour l'agriculture palestinienne et sa souveraineté alimentaire. Arracher les arbres, c'est une arme d'oppression et de destruction de plus.
Et pour continuer sur cette thématique, on a vu passer, enfin, du coup, la thématique des arbres arrachés, on a vu passer un enregistrement dans notre boîte mail fait par une camarade de Grenoble et une autre habitante au Chili. Et elle retrace la lutte entourant la disparition de Julia Chunil, une militante mapuche. Alors avant d'écouter cette chronique, je voulais expliquer dans les grandes lignes la situation au Chili. Depuis les années 70, l'industrie agroforestière s'expand sur des territoires ancestraux mapuche qu'ils appellent le Walmapu. Depuis la dictature de Pinochet, les industriels bénéficient de l'aide des gouvernements successifs pour voler des terres et accroître leurs activités. Tout ça grâce au copinage entre les membres de la dictature, puis les politiciens qui sont suivis dans les gouvernements d'après, et les chefs d'entreprise. Il y a aussi un décret qui date de Pinochet qui donne de l'argent public à des entreprises privées pour les monocultures, et également un soutien militaire et policier pour exproprier les familles, brûler leurs maisons et mettre des coups de pression. Les forêts ou les terres agricoles sont remplacées par des monocultures de pins et d'eucalyptus. Et ce dernier, c'est un arbre normalement d'Australie. Mais il est planté un peu partout dans plein d'autres pays, parce qu'il sert à... son bois est utilisé dans plein de choses. Et donc, il a notamment été planté à foison au Chili, et il cause de nombreux dégâts. Alors déjà, il pousse très vite, et en fait, ça demande du coup beaucoup d'eau, ce qui assèche le sol et les nappes phréatiques. Il favorise aussi la propagation des incendies. Et ces grandes monocultures, en fait, elles profitent principalement à 3 entreprises au Chili. Mais elles ont des impacts terribles sur les populations locales. Là où il y a ces cultures, la pauvreté y est beaucoup plus forte, les inégalités sociales plus grandes, et il y a aussi plus de pollution des terres. Et donc les Mapuches tentent de se battre contre le vol de leurs terres. Ils font face à une violence constante. Ils font face aussi au morcellement de leur territoire, ce qui participe à affaiblir leur capacité à s'organiser. Et ça affecte leur quotidien. Mais cela ne les arrête pas de se battre pour défendre leurs terres.
Donde está Julia Chunil? une chronique qui revient sur l'histoire de Julia Chunil, militante mapuche disparue le 8 novembre 2024. À travers son histoire se rejoue toute l'injustice et les inégalités que subit le peuple mapuche depuis des siècles, dans ce pays qu'on appelle aujourd'hui le Chili. Bonne écoute.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous. Avec tout le respect et depuis les informations dont je dispose, je vais vous parler de Julia Chunil Catricura, femme mapuche de 74 ans, défenseuse de la terre et dirigeante de la communauté de Putrehuel, région de Mafil, Hualmapu, au sud de ce qui s'appelle aujourd'hui le Chili. D'abord, qui sont les Mapuche? C'est un peuple ancestral de l'extrême sud de l'Amérique. En 1540, leur territoire était presque tout l'actuel Chili et le sud de l'Argentine. C'est un des rares peuples du continent qui a réussi à combattre et repousser les colons espagnols et garder un territoire autonome au sud du fleuve Biobío. D'ailleurs, ensuite, les guerriers Mapuche ont aidé les Chiliens à gagner leur indépendance face aux colons espagnols en 1818. Cependant, le gouvernement chilien nouveau-né montre rapidement sa soif de pouvoir et ressources et tente de conquérir le Hualmapu, le territoire mapuche, avec l'argument colonial fraîchement importé de l'État-nation.
Ver por dentro en sus ojos el llorar. Abrí mis sentimientos para poder escuchar. Que a los cuatro vientos yo le quiero gritar. Que yo a los mapuches voy a representar. Mi tierra ancestral ya se debe levantar. Mi tierra ancestral ya se debe levantar. Más de 500 años sin parar de luchar. Aquí era recuperada, pero son nuestra, nuestro hogar.
Pour les mapuches, c'est un nouvel épisode de résistance, répression et diminution de leur territoire. Entre 1851 et 1883, c'est la pire opération de colonisation du Hualmapu de la part du jeune État chilien, l'horriblement dénommée « opération de pacification de la région de la Araucanía ». Parallèlement à la colonisation similaire de territoires mapuche en Argentine, dénommée « pacification du désert ». De nombreux huaychafes, guerriers mapuche, tombent et l'État chilien s'approprie du sud du Chili, tentant d'assimiler la population mapuche et volant de nombreux territoires. Cependant, même sur des territoires réduits, les Mapuches ne cessent de s'organiser en nations autonomes, avec leur propre culture, langue, cosmovision, interconnexion profonde avec tous les êtres, terre, plantes, eau, animaux et esprits.
Porque nuestra gente era sabia, sabía gobernarse. Al principio era respeto, sin necesidad de cárcel, ni juez, fiscal, moral, religión. Cada uno con su rol, un equilibrio, una labor y me divorcio de criterios occidentales para darle paso a nuestros parámetros mapuche, tales como respetar la tierra, como rescatar el relato de adultos que encierra.
La lutte pour la récupération territoriale est le pilier central de la lutte mapuche, qui signifie « peuple de la terre ». Parce que leur vie et santé physique et spirituelle dépendent de la terre, des forêts, des plantes, des ruisseaux, des lacs, de la mer, des animaux, etc. Leur existence est donc en conflit direct avec la logique extractiviste capitaliste. C'est une histoire constante de conflits, répression, racisme, négociations, avec les différents gouvernements chiliens et les différents investisseurs étrangers dévastateurs.
Es que yo soy como Cuyen que de noche puede divisar. Represento el alamien que día a día sale a luchar. Y con mucho legüen esto se va a dedicar. Que con mi padre Angullo te invito a caminar. Que el mapuche ya no es pueblo, el mapuche ya nació. Esto nace de mi piuque, esto nace del corazón. Hay niños sufriendo la demencia, no quiere parar. Diciendo mentira, no piensa en engañar. Hablando de cuidar al pueblo y por la espalda apuñalar. Seguimos resistiendo, no nos van a derrotar, no, no. Y ellos nos incriminan como ladrones, siendo que de los delitos que fueron los verdaderos autores.
Aujourd'hui, sous le gouvernement totalement hypocrite de Gabriel Boric, supposément de gauche progressiste, mais avec des politiques plus à droite que n'importe quel gouvernement de droite, les Mapuches souffrent une répression jamais vue. Depuis le 17 mai 2022, qui correspond au début du mandat de Boric, le Hualmapu, qui est donc le sud du Chili actuel, territoire mapuche, est sous le régime d'état d'exception, complètement militarisé. Cela dans le but de défendre les intérêts des grands entrepreneurs et dévastateurs, pour la plupart européens. Entreprises forestières, élevage de saumon, etc. De nombreuses organisations mapuche sont considérées comme terroristes et il y a une répression brutale envers le peuple mapuche en général. Intimidation, persécution, racisme, perquisition, prison préventive de plusieurs années, peine de prison disproportionnée, montage judiciaire, assassinat, désapparition forcée, etc. Et l'avenir risque d'être encore plus terrible avec l'arrivée au pouvoir du facho et fils de nazi allemand Kast en mars prochain.
Ser mapuche corre por mi sangre, yo me enorgullezco. Vamos luchando y exigiendo los derechos de que roban, matan, mienten, oprimen nuestro pueblo. Que van 500 años y no descansaremos. Incheta ni mapuche ni ni volmi ya ok. Amule peta in huecha in cagua in taimo niera. Fugo in cagua in etu que cuila y tu fen y eñar. Que chupa taca triban tu amule y la miel negu en tu mena. Incheta ni mapuche ni ni volmi ya ok. Amule peta in huecha in cagua in taimo niera. Fugo in cagua in etu que cuila y tu fen y eñar. Que chupa taca triban tu amule y la miel negu en tu mena. Y con el buen. Con el buen para mis tierras ancestrales, escúcheme bien. Nuestras tierras nunca estuvieron en venta y nunca lo van a estar. Un fuerte afafán para mis tierras ancestrales. Ya, 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 ya. Hija, encima ya que la casa. Boom, yeah.
C'est donc dans ce contexte que le 8 novembre 2024, Julia Chunil Catricura, 74 ans, part s'occuper de ses animaux accompagné de ses chiens. Deux chiens reviennent. Mais elle et Cholito, le plus jeune chien, ne reviennent pas. Julia Chunil se savait menacée par Juan Carlos Mostat Anventer, gros propriétaire terrien et chef d'entreprise forestière, descendant d'Européens. Elle avait averti sa communauté avec cette phrase maintenant tristement célèbre. « Si me pasa algo, ya saben quién fue. S'il m'arrive quelque chose, vous savez déjà de la faute de qui c'est. » Déjà plus d'un an de recherche, d'angoisse, d'espoir aussi de la retrouver vivante, d'indignation, de rage, de manif. Cheumelei Julia Chunil. Donde está Julia Chunil? Où est Julia Chunil?
Cheumelei Julia Chunil. Digan quién se la llevó. Ella no desconoce la mapu donde vivió. La tierra va a reclamar a quien siempre.
Alors que dès le premier jour, la famille informe le nom du principal suspect, celui-ci n'a jamais été inquiété ni interrogé. Au contraire, l'enquête s'est concentrée sur la famille, surtout les fils et la fille de Julia Chunil, qui ont été victimes d'une forte persécution de la part des agents de l'État. Plusieurs perquisitions, interrogatoires musclés, fausses preuves, dans le but de faire un montage judiciaire pour accuser la fille de Julia Chunil de la mort de sa mère et laver les mains du grand propriétaire terrien. Maintenant, c'est le tour de ses fils d'être accusés, et c'est aujourd'hui un de ses fils qui est considéré comme le principal suspect par la justice. Pendant tout ce temps, l'État nie l'accès au dossier d'enquête à la famille et aux avocats. L'affaire est à la charge du même procureur que quand ils ont fait passer l'assassinat de Macarena Valdés pour un suicide. Macarena Valdés qui était une autre défenseuse mapuche. Le 30 septembre dernier, l'avocate accède par erreur à l'enregistrement d'une conversation téléphonique de Juan Carlos Mostat Anventer, datant du lendemain de la disparition de Julia. « Ils ont brûlé Julia Chunil », dit-il. 11 mois que cette information était maintenue cachée, que l'assassin et le responsable ne sont pas inquiétés, que les enfants de Julia sont persécutés, et en plus de l'angoisse de chercher leur mère, que les rues, plages et montagnes crient « Où est Julia Chunil ?» Suite à cette révélation, il y a eu des grosses manifs dans tout le pays. La douleur, l'indignation et la rage se font sentir. Hélas, elles sont vite retombées. Le 12 octobre, cyniquement déclaré jour des peuples originaires au Chili, la grande chaîne de télé Canal 13 publie un reportage de 13 minutes sur l'affaire, accusant directement l'un des fils de Julia Chunil de l'assassinat de leur mère. Malheureusement, cette chaîne a un grand pouvoir médiatique et beaucoup de personnes boivent leur montage. Plus que jamais, nous nécessitons amplifier la voix de la famille de Julia Chunil, diffuser les informations réelles et demander que soit enquêtée la responsabilité de Juan Carlos Morstadt Anwandtel dans l'assassinat de Julia Chunil Katrikula. Parce que comme elle-même l'avait présagé, si me pasa algo, ya saben quién fue. Vérité et justice pour Julia Chunil. Actuellement, sur grand fond de racisme, surcriminalisation et irrégularité judiciaire, se déroule le procès du Huelquén porte-parole Rafael Pichum. J'espère pouvoir vous en parler dans un prochain épisode. À bientôt!
Vous l'aurez compris, la répression contre les Mapuche est intense et elle coûte cher. Alors si vous avez envie de leur apporter votre soutien financier, vous pouvez écrire à Solidaridad, S-O-L-I-D-A-R-I-D-A-D, tiré du 6, ppm à triseup.net.
Et on finit par du métal. Alors, je vais vous citer les zik que vous avez entendu. On a eu d'abord Cheu Muley, Julia Chunil, de Constanza Nahuelpan. Miser Mapuche, de MC Mijaray. Ensuite, Autoridades Ancestrales de Conyoman. Canción por Macarena Valdés, de Cuarto Creciente. Et pour finir, Río Arriba, Quema el Sol, de Traidora. Et juste une petite mise à jour, en fait il y a 2 semaines, ce sont les 3 enfants de Julia Chunil qui ont été arrêtés, détenus et poursuivis pour le meurtre de leur mère, ainsi que son ex-gendre qui est lui aussi poursuivi pour homicide, et ils sont en plus accusés d'un vol. Voilà, du coup il y a des fouilles qui allaient être menées sur la propriété de Julia Chunil, et pendant ce temps, les médias donnent la parole au chef de l'entreprise, qui se félicite d'être lavé de tout soupçon. Alors courage à toutes celles et ceux qui continuent de se battre pour faire la vérité sur cette affaire. c'était Under Giant Trees, sous les arbres géants, d'Agnès Obel. C'est un morceau issu de son album Aventine, édition de luxe, sorti en 2014. Vous avez peut-être déjà entendu certains des morceaux d'Agnès Obel parce qu'ils ont été repris souvent, soit dans des films, soit dans des séries. Elle compose ses morceaux, elle joue au piano, elle joue aussi d'autres instruments. Elle enregistre séparément ses instruments. Et puis, elle arrange le tout. Elle chante aussi elle-même, elle produit. Bref, elle a décidé d'essayer de faire intervenir le moins d'intermédiaires possible dans la fabrication de sa musique. Elle aime les mélodies simples et se fait souvent facilement plus emporter par la musique qui lui raconte déjà des histoires que par des textes. Et je vous invite à aller découvrir ses autres morceaux.
Et maintenant, on va parler d'Anna Kawaji, alors alias Jima Jim. C'est une artiste écoféministe décoloniale, à la fois musicienne, productrice de musique électronique et performeuse. Elle anime aussi des ateliers d'écriture et accompagne des jeunes à travers la pratique de l'art-thérapie. Elle intervient dans des accueils de jour. Son travail s'adresse aux personnes vivant avec un handicap, confrontées à des troubles psychiques, à des addictions aux substances ou comportementales, ou souffrant de pathologies chroniques, aux personnes traversant une période de crise ou de rupture, aux personnes ayant des vécus traumatiques, aux proches aidants, aux personnes désireuses de mieux se connaître. Alors, je vais la citer quand elle parle de sa performance qui s'appelle « Transformer l'empreinte » dans un article qui est paru sur Carbo Média. « Nous vivons actuellement dans une frénésie du faire, du produire, qui engendre énormément de gâchis. Qu'est-ce qu'on produit ? Pourquoi le produit-on ? Je pense par exemple à la production minière, aux vêtements, aux montagnes de plastique. Je voulais aborder cette question de l'empreinte, laissée parfois malgré nous par nos activités quotidiennes, et surtout la représenter dans une performance artistique. J'ai pensé cette empreinte, cette trace, sous forme de trois aspects, l'aspect visuel, l'aspect sonore et l'aspect tactile. Je voulais qu'on puisse entendre l'empreinte, la ressentir, être dans l'action du geste et l'entendre en même temps. J'avais envie de tout reconnecter ensemble, car nous avons trop souvent tendance à tout séparer, à tout mettre dans des cases, à distinguer ce qu'on voit de ce qu'on entend, de ce qu'on ressent, de ce qu'on fait. J'ai glissé des capteurs tactiles sensoriels derrière une toile de papier ensemencée de graines de fleurs sauvages, symbolisant la régénération. J'ai fabriqué une peinture à base de charbon végétal, d'arbres brûlés et de colle biodégradable. Le charbon m'intéressait d'un point de vue esthétique et symbolique, à la fois pour sa noirceur et pour son pouvoir conducteur. Grâce à cette peinture conductrice, il a été possible de générer du son. Sur la toile ensemencée, reliée à des capteurs, le tracé des participants à la peinture au charbon créait comme un fil dans un circuit imprimé et permettait des variations de courant et donc de son. Ça a l'air passionnant en fait, je suis tombée dans une faille complète. Et l'article, il est hyper intéressant, franchement, il faut aller lire, et même son site et tout. Et à la fin de cet article, Anna Kawaji répond à une question qui est « On a parfois l'impression aujourd'hui que face à l'urgence dans laquelle nous sommes, l'art paraît futile, qu'en penses-tu ?» Et elle dit « Ce qui nous paraît anodin est en fait essentiel. Les moineaux, les grenouilles, les vers de terre, l'art, les menstruations, tout ce qui paraît risible est en fait fondamental. » L'art permet la prise de conscience et surtout offre la possibilité de surmonter des sujets qui sinon apparaissent tellement lourds. Ça permet de digérer et régénérer les choses aussi. La créativité est un processus naturel qui suit un cycle. Il y a des temps de jachère, des temps où c'est mort, où on a besoin de se nourrir, où notre terreau a besoin de se régénérer, avant que quelque chose puisse pousser à nouveau. Créer permet de ne pas mourir spirituellement. Voilà, et maintenant, j'ai choisi un extrait d'une performance de Jima Jim qui s'appelle Water Over Fire. Je vous conseille d'aller voir cet artiste, de se perdre sur ses sons.
Thank you. c'est la chronique livre.
Surprise.
Bon qu'on me l'a rappelé parce que moi j'étais perdue, j'étais partie avec cette musique là, loin, loin, loin. Alors je vais vous parler de deux romans de Jean England, écrivaine états-unienne. Le premier, Dans la forêt, mon préféré, a été édité en 96. Elle y raconte l'histoire de deux sœurs, Eva et Nell, ados qui après l'effondrement apprennent à survivre dans la musique, dans la musique, ouais, je suis complètement dedans, survivre dans la nature. Dans la nature, c'est le sujet. Donc, trigger warning, parce que ce roman contient un viol. Donc, c'est un roman d'anticipation post-apocalyptique et dystopique et un récit initiatique féministe et écologique, tout ça. Ce huis clos au sein de la forêt met en jeu avec un certain suspense psychologique l'isolement et les enjeux de survie des deux sœurs. Donc Jean England y questionne entre autres les relations intrafamiliales, la société de consommation et ou le rapport de l'humain à la nature. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé le premier. La suite de ce roman sorti en 2025, donc bien après, intitulé « Le temps d'après », se déroule 15 ans plus tard. Les deux sœurs sont devenues chasseuses-cueilleuses et nous découvrons leur vie dans la forêt à travers le personnage de Burl, leur adolescent né dans une souche. Bon, j'avoue des fois c'était un peu trop hippie pour moi, mais bon, c'est un roman dystopique quand même original. Burl, il parle dans une langue poétique, forgée par l'oralité et l'observation de la nature qui l'entoure. Il nous raconte ce quotidien en autarcie vécu au rythme de la forêt, rapport au temps, aux outils, aux végétales, aux animaux. Elles ont dû tout réinventer. Seul leur lien aux humains, abîmé par la violence, semble brisé à jamais. Et Burl, qui n'a jamais connu d'autres humains, lui brûle d'en rencontrer. Bon. Et moi, je dirais que le premier volet, il m'avait vraiment happé et touché, notamment pour la relation bouleversante entre les sœurs. Et au deuxième volet, on ne les retrouve qu'au travers de ce personnage de Burl. Et ça m'a quand même un peu frustrée, j'avoue. Ceci dit, les deux romans peuvent se lire l'un sans l'autre. Et je vous invite à plonger dans les forêts de Jean.
Et sinon, je peux rajouter que Dans la forêt existe aussi en bande dessinée.
Oui, et apparemment, il y a un film aussi qui a été fait.
Lady left me here underneath this old oak tree. She made me a bed of roots and leaves. With a trembling voice she sung me to sleep. Said dream, 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 sweet dreams. Dream. Dark was the night, cold the ground. I heard voices all around. Tiny star falling down. My little soul is now free and unbound. And I dream, 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 sweet dream. In the woods and you see a big old oak tree. Tread carefully, please, 'cause I'm dreaming underneath. And I dream, 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 sweet dreams. Then I dream. Dream, 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 sweet dreams. Oh, I dream. Dream, 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 sweet dreams.
Et on vient d'écouter Oak Tree, le chêne de Myrl Wagner, autrice, compositrice, interprète, née en Éthiopie et vivant en Finlande aujourd'hui. C'est un morceau que vous pouvez trouver sur son album When the Cellar Children See the Light of Day, sorti en 2014. Alors moi, c'est les petits moments que j'aime bien avec Microféroce parce que genre, on se donne un thème et puis du coup, on part dans nos recherches et puis je prends des failles et puis là, je découvre, j'ai la chance même de connaître cette nouvelle artiste. Alors, je vous conseille d'aller écouter les sons de Myrl Wagner. C'est un univers qu'elle nous donne à partager. C'est du folk hyper deep, une voix, une guitare avec des textes aussi intimistes que poétiques. Je cite... Elle ouvre plus des parenthèses qu'elle ne clôt des chapitres, à tel point qu'on ne peut faire que partiellement le tour de ces mots, M-A-U-X. On se rapproche même des ombres, des bois hantés, par les effets d'un chant mystique qui offre une voix au chagrin. Nous sommes aux portes d'un hypothétique lendemain. Bon, à vous de voir, à vous d'écouter.
Quel punchline de ouf.
Alors, un petit agenda. Donc ça se passe à la langue... j'ai enlevé mon écharpe. À la Cancaille, local associatif féministe autogéré au 97 Grande Rue à Luc-Candiwa, où il se passe plein de choses super, notamment le rendez-vous café du vendredi matin. Bon, revenons à nos moutons. L'agenda, c'était pour l'événement qui a le dimanche 22 février de 10h30 à 13h30. Et donc c'est un repas partagé, le repas partagé des forêts, une rencontre conviviale pour fédérer autour de la protection de la forêt. Discussion autogérée concernant les menaces de coupe rase liées à la centrale biomasse de Gardanne. Donc contre l'exploitation industrielle des forêts, ni dans le Diwa, ni ailleurs. On mettra des liens, Help Forêt Diwaise, Réseau pour les alternatives forestières, tout ça en podcast.
On arrive à la fin de cette émission. Voilà. Alors, on va vous dire au revoir, mais avant...
On va se quitter avec Grâce et Volupté Vent-Vent, un duo de rap électro-queer de Toulouse ou par là-bas, quoi. Sorti en juin 2024, le titre Platane, on ne pouvait pas passer à côté. Big up et Cimer pour ce son qui déboîte, pied au plancher, hache à la main. On va les éviter, les platanes et les peaux de banane. Allez,
salut,
ciao,
bisous,
à la prochaine.
J'avance petit à petit, on m'avait pas tout dit.
Non.
Bien loin du style de vie, ben ouais, je vais suivre ce que je veux. J'essaie d'être courageux, bien loin de ton style de vie.
Bien loin,
ben ouais, je vais suivre ce que je veux. Ben ouais, je vais faire ce que je veux. Pas tout le long de tête à queue, pas de panique qui attaque. Dans les platanes, les belliqueux, fuck la famille et sauf qui peut.
Je suis le membre de la famille fantôme.
Je suis le membre de la famille fantôme.
Tout ce qu'on partage, c'est le même génome. De la com par émoticône, ça suffit pas, émoticom. J'ai travaillé sur mes névroses. Fais des efforts et mange tes torts.
Mange tes torts.
Évite tous les platanes, platanes. Évite, évite les peaux de banane. Lorsqu'un rap passe sur ta tête, ça traverse la glace. Le coup d'éclat, ils sont dégueulasses comme Gérard. On peut plus rire de rien, connard. Hache à la main, leur forme d'appoint. Hashtag filer, hashtag bagarre. Évite, évite, platane, platane. Évite, évite, les peaux de banane. Évite, évite, platane, platane. Évite, évite, les peaux de banane. Hache à la main, leur forme d'appoint. Hache à la main, leur forme d'appoint. On peut plus rire de rien, connard. On peut plus rire de rien, connard. Pied au plancher, voir défiler toutes ces années. Feu au plancher, comme un pentacour à lacet. J'y pense quand j'ai peur de changer. Le monde d'avant, le monde d'après. Bigard, Pasqua, Gala, Swinga. Au beau milieu d'une discussion, je vomis mon jean casse citron. Baggy dégâts, dire la dada. J'y retourne pas,
j'y retourne pas.
Même pas au climat, j'y retourne pas,
j'y retourne pas.
Tristan va donc chez Addison. Fermer les yeux semblant dormir. Pendant qu'il frotte, l'entend gémir. Jeter sa tête sur le carrelage. Pas de bras pour l'atterrissage. C'est ma manière de rendre hommage. Dommage, dommage, mais quel carnage. Pied au plancher, j'aime pas les circuits compliqués. Feu au plancher, laissez le passer dans un brasier. Évite, évite, platane, platane. Évite, évite, les points de banane.